Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Jean-François Lisée.
On va juste dire qu'on est d'accord.
Thomas Mulcair.
Je te donne 100% raison.
La rencontre.
C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
La rencontre. Lisée. Mulcair.
Alors, Jean-François, il y a des gens qui se demandent peut-être pourquoi le gouvernement Trudeau a sorti cette loi massue des mesures d'urgence, finalement, pour écraser une mouche. Et là, on l'a su, la raison pourquoi, Jean-François, hier, c'est parce que c'est pour redorer l'image du Canada à l'étranger. Les gens trouvaient qu'on était une république de bananes, donc c'était pour ça. C'était parce qu'on était mal vu avec tous les camions bloquant le centre-ville d'Ottawa.
Ben, écoute, c'est vrai qu'on était mal vu. Tu sais, on a parlé énormément du 6 janvier, là, de la tentative d'insurrection aux États-Unis, puis c'est bien épouvantable, puis il y a une commission d'enquête, mais ça a juste duré une demi-journée. Après une demi-journée, les policiers, la Garde nationale, les a sortis. À Ottawa, ça a pris 2 semaines avant qu'on tente vraiment de dégager l'espace devant le Parlement national. Et moi, j'ai trouvé que c'était honteux. La gestion de ça, c'était honteux. Le Canada avait l'air d'une république de bananes qui ne pouvait pas faire la circulation devant son Parlement. Je veux dire, c'est très clair. Maintenant, effectivement, l'invocation de la loi des mesures d'urgence a été faite le jour où parce que, tu sais, bloquer la rue devant le Parlement, c'est mauvais pour l'économie de cette rue-là, mais pas pour l'économie du Canada.
Ben non, ben là, Mme Freeland semble dire que c'était mauvais pour... que ça paralysait l'économie du pays au grand complet, on dirait.
Ce qui était mauvais pour l'économie, c'était le blocage du pont Ambassador à Windsor, qui est effectivement un axe très important pour le commerce, et le passage Coutts en Alberta. Et le fait que ces deux endroits-là soient bloqués... posait des problèmes réels. Je crois tout à fait qu'à la Maison-Blanche, ils se mettaient à appeler pour dire, ben, comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de dégager une manif? Et les deux blocages-là ont été levés dans les heures qui précédaient l'invocation de la loi des mesures d'urgence. On peut dire, ben là, donc c'était pas nécessaire de l'invoquer puisque les deux blocages avait été levé, c'est vrai, mais au moment où ça arrive, tu dis, ben, puisqu'ils viennent de bloquer ça, peut-être qu'ils pourraient le rebloquer demain. Donc, moi, je pense que c'est un argument qui est quand même assez fort, compte tenu de l'incertitude sur ce qui pourrait se passer le lendemain ou le surlendemain, puisque les manifestants avaient réussi ces blocages-là, ils pourraient revenir. C'est un argument qui est assez fort.
Tom, qu'est-ce que tu en penses? Mme Freeland qui dit que ça bloquait l'économie du Canada et puis le Canada avait l'air d'une joke au regard étranger.
Ben ça, c'est pas en soi une raison pour invoquer une loi sur les mesures d'urgence.
Ben non.
Mais ce qu'elle était en train, par ailleurs, de dire, c'est que les gouverneurs des États américains, limitrophes à l'Ontario notamment, et dans le Nord, on peut penser plus proche Dakota du Nord, Montana, et ainsi de suite, disaient, ben écoutez, là, si vous commencez à bloquer votre frontière, ça marche plus. On est mutuellement nos plus importants partenaires en matière d'échanges commerciaux, puis il faut quand même se rendre à cette évidence. Par ailleurs, moi, j'ai l'impression que Rouleau, comme Jean-François l'a si bien dit hier, s'impatiente un tout petit peu avec le manque de réponse. Moi, je connais bien Chrystia Freeland. C'est quelqu'un qui, en ad-lib, là, si tu mets un micro devant elle, gaffe garantie. C'est une femme absolument. Ah, ouais. C'est une des personnes les plus brillantes que tu vas jamais croiser dans ta carrière en administration, en politique. Mais elle s'invente des réponses. C'est elle qui a dit, parce qu'elle commence à souffrir évidemment de l'inflation, qu'elle annulait son abonnement à Disney+. Ça, c'était pour montrer qu'elle comprenait la peine des gens. C'était hallucinant. Et ça s'invente pas, là. C'est ça qu'elle a dit, là. Et donc, ça, c'est du grand Chrystia Freeland. Hier, j'ai vu Chrystia Freeland qui était dans la pièce de théâtre de Noël de son école primaire. Elle a répété des lignes qui avaient été écrites pour elle, puis c'était une bonne chose pour la cause du gouvernement Trudeau, parce qu'elle est restée tellement collé sur des lignes, ça paraissait que c'était fabriqué en bois. Tu sais, bon, elle répétait. Donc ça, c'est un peu la thèse qu'ils essaient de montrer. Si Trudeau est capable d'être un petit peu plus vivant aujourd'hui, donner des meilleures lignes, montrer que c'était une situation impossible, que la police d'Ottawa avait complètement foiré, moi, je pense que Trudeau est tout à fait justifié de jeter Peter Slawley, du moins l'administration sans le nommer nécessairement, de la police d'Ottawa en dessous de l'autobus parce qu'il mérite rien que ça. Et je pense qu'il va pouvoir dire, avec ce qu'on a eu, on était capable de le démanteler rapidement, mais jusque-là, c'était des bras de fer, Ontario, Queen's Park, Ottawa, ainsi de suite. Et il faut jamais oublier que la police du Québec, la sûreté, était bel et bien présente sur la ligne de front pour démanteler. Ça prenait tout ça pour avoir toutes ces forces vives en présence. Mais si Trudeau fait la même gaffe que la métier, s'il tente de dire, je peux pas en parler, ça c'est le secret du Conseil des ministres, là j'ai l'impression qu'il risque de se faire arracher la tête. Là le juge risque de dire, regarde là, ça c'est prévu au terme de la loi, cette commission d'enquête, c'est écrit dans la loi, on invoque les mesures d'urgence, on doit tenir une enquête et tu dois me répondre. Mais je pense que Trudeau va être extrêmement bien préparé. Il est bon pour répéter ce qui lui a été préparé, mais il est aussi capable de le rendre un peu plus vivant. Puis vous avez tous vu comme moi que le manque de français dans cette commission fédérale commence à être comprise par tout le monde. Donc Trudeau, je vous garantis, ça va être 60-40 français-anglais. Puis regarde bien s'il n'y en a pas un des génies qui représente les truckers qui commence pas à lui dire « Hey, you can answer me in English ». J'ai hâte de voir
Justin
ça.
Justin qui a effectivement avoué que ça manque un peu de français dans cette commission-là. Jean-François, je vais te demander de commenter les propos d'un commentateur qui s'appelle Thomas Mulcair, qui écrit aujourd'hui dans le Journal de Montréal, « Le système de justice au Québec est en train de s'écrouler et François Legault ne fait rien pour le soutenir. » Est-ce que tu es d'accord, Jean-François?
Très respectueusement, le fait qu'il s'écroule, oui. Le fait que François Legault ne fasse rien, ça se discute, mais je sais qu'on a un désaccord fondamental sur la juge Julie Rondeau qui a pris une décision extrêmement dommageable pour les délais. Écoute, elle a avisé le gouvernement en avril qu'à partir du 1er septembre, les juges qui sont dans des causes criminelles allaient être en audience moitié moins de temps. Elle dit, c'est ça va arriver le 1er septembre, puis donnez-moi 41 juges de plus. Et la presse a publié un échange de lettres ou de courriels entre le ministère de Jeanine Barrette, ministère de la Justice, et la juge, où Jeanine Barrette dit, écoutez, même si on voulait vous donner 41 juges, ça prendrait 18 mois, ça prend un changement législatif. Alors, est-ce que vous pouvez juste, d'abord, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, mais pouvez-vous le retarder pour qu'on discute un peu de comment ça va se faire? Et elle refuse. Alors, en Ontario, c'est 4 jours d'audience pour 1 jour de délibération. Avant, au Québec, c'était 2 jours d'audience pour un jour de délibération. Puis là, la juge Rondeau a décidé que c'était 1 jour d'audience pour 1 jour de délibération. Alors, clairement, tu sais, c'est la bombe atomique pour les délais qui a été imposée unilatéralement par la juge. Alors, c'est vraiment, moi, je trouve ça injustifiable de la part de la juge Rondeau, puis je suis sûr que Tom va nous expliquer pourquoi j'ai complètement tort là-dessus.
C'est ça la beauté de vivre dans une société où on peut avoir des bons débats de fond. Non, personnellement, je crois que Madame la juge Lucie Rondeau est tout à fait dans ses droits. Elle est responsable de s'assurer que les délais soient rencontrés. Et ça, c'est tributaire d'un principe de base dans notre société, la présomption d'innocence. L'arrêt de Jordan, ça date de 2016. Mais c'était pas tout seul. L'arrêt de Jordan est venu par-dessus une série de décisions de la Cour suprême et c'était adressé à l'ensemble des ministres de la Justice des provinces, disant, vous vous êtes assis sur vos mains, vous faites rien, on ne tolérera plus des délais comme ça, parce que dire à quelqu'un qui va rester en prison 2-3 ans ou il va attendre chez eux 3-4 ans avant son procès, c'est un non-sens. Ça nie la présomption d'innocence, un des principes de base, comme je dis, de notre système judiciaire. Est-ce qu'il y a mieux qui peut être fait? La semaine dernière, j'étais en onde en train de faire le bilan le soir. Et la bâtonnière du Québec, Maître Claveau, a eu quelque chose de très intéressant à dire. Elle a dit, écoutez, on parle tout le temps de médiation, il va falloir qu'on s'assoie et qu'on trouve une solution. Peut-être Jean-François et moi, puisqu'on est de part et d'autre d'opinions différentes qui est en faute ici, on pourrait faire cette médiation. Mais moi, je vais me permettre de signaler une chose. Il y a parfois... On essaie de ne pas personnaliser quand on fait des analyses. On veut essayer d'être le plus objectif possible. C'est pour ça que je parle de choses comme les décisions de la Cour suprême et les délais. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence que Simon Jeanlin Barrette, à chaque fois qu'il a un dossier, quand il était à l'immigration, il a dit qu'il allait jeter à la poubelle des dizaines de milliers d'applications valables pour immigrer ici. Les tribunaux lui ont dit, t'as pas le droit de faire ça, arrête de déconner. Là, il a dit que c'est lui qui va décider qui a besoin d'être bilingue ou pas. Richard, il y a des vrais malfrats, des bad guys là, qui échappent à leur procès, pas juste à cause de Jordan, mais parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur procès, qui est un droit constitutionnel garanti, autant ici pour l'anglais que pour le français au Manitoba, et ainsi de suite. Ils sont en train de s'échapper parce que il n'y a pas assez de juges qui comprennent l'anglais et c'est un droit. Donc, on peut avoir un débat sur la loi 96, mais on peut pas avoir un débat sur l'obligation de fournir des juges bilingues. Et Simon Jeanlin Barrette, en premier bras de fer avec Madame la juge Lucie Rondeau, il dit, non, c'est moi qui décide ça. Il a même mis ça en 96, c'est illégal, c'est déjà en train d'être enlevé par les tribunaux. Donc, à chaque fois qu'il fait un truc comme ça, il perd devant les tribunaux. C'est un gars intelligent, mais super entêté, puis j'oserais même dire chicanier. Et oui, il y a des questions de personnalité qui rentrent en cause, et je pense que Legault a fait une erreur monumentale en renommant Simon Jeanlin Barrette comme ministre de la Justice.
Jean-François, j'imagine que tu n'es pas d'accord, mais tu l'as dit tantôt, là.
Oui.
Absolument pas d'accord avec la version de Tom. Let's agree to disagree.
mais je veux juste dire une chose, oui. C'est que dans cette... dans cette discussion-là, la juge Rondeau demande à des juges, êtes-vous d'accord avec la juge ou avec le ministre? Puis les juges sont d'accord avec la juge. Alors, ça aussi, ça pose un problème. Je pense qu'ils sont un petit peu juges et partis, ces juges-là, lorsqu'il est question des juges. Voilà.
Jean-François, on sait que le symbole animalier du Québec, c'est le harfang des neiges. Moi, je choisirais la vache. Parce que Jean-François, on pense que les Québécois sont comme des vaches. Hein. Ils sont contents d'être dans leur pré, ils broutent tranquillement, etc. Mais finalement, comme les vaches, on attend qu'il y ait une brèche dans la clôture fédérale pour sacrer le camp, pour partir. On a l'air tranquille comme ça, comme les vaches de Saint-Sever. Mais à l'intérieur, ça gronde. À l'intérieur, ça bouille, Jean-François. On est des taureaux qui s'ignorent, peut-être.
La soif de liberté des vaches québécoises. C'est extraordinaire. T'sais, ils se sont rebellés, ils sont sortis. Même la SQ peut pas les retrouver, le MAPAC peut pas retrouver. Même les cow-boys de Saint-Tite n'arrivent pas à remettre les vaches dans leur enclos. C'est le symbole de la liberté québécoise. Et puis moi, je dis à la CJB, lâchez le mouton noir. C'est la vache qui symbolise la future indépendance du Québec.
Qui a l'air placide comme ça. Elle a l'air de rien. Elle a l'air d'être contente d'être dans son enclos. Mais finalement, elle rêve de liberté. Tom.
Content d'être content. Oui. Donc, tu sais, lorsqu'on regarde les armoiries, là, au Manitoba, justement, ça va être un bison debout, des chevreuils, des orignaux, des licornes. Pourquoi pas? Il y en a. Des lions. Puis pour le Québec, lorsqu'on va faire nos armoiries, on va pouvoir mettre une vache. Ça va être parfait. Comme symbole.
Et en terminant, Fadi Daguerre a été présenté hier, là, c'est son point de presse, le nouveau chef de police du SPVM. Et Tom, il a dit, écoutez, je vais pas appliquer à Montréal la recette que j'avais appliquée à Longueuil. Montréal, c'est Montréal. Longueuil, c'est Longueuil. Et il comprend qu'on a aussi besoin de, pas seulement de prévention, mais on a aussi besoin de répression à Montréal. C'était quand même un message rassurant.
C'était un message rassurant parce que c'est un homme intelligent, puis il comprend lui-même le piège qu'on est en train de lui tendre en le traitant de vedette en arrivant. Parce que si j'étais nerveux le soir même de l'annonce, je l'étais encore plus hier parce que justement, les journalistes le traitent comme une vedette. Et ils mettent énormément de poids sur ses épaules. J'en parle pas de mes trucs personnels, mais un de mes fils est policier depuis 25 ans. Il est assez haut gradé dans la Sûreté du Québec. Et comme tout parent, ou conjoint d'un policier ou d'une policière, moi ça me préoccupe toujours de la sécurité des policiers qui sont là en train de mettre leur vie en danger pour nous protéger. Alors moi, je regarde ça d'un œil inquiet parce que je veux qu'il réussisse. Je crois qu'il a énormément de talent, mais cette histoire de végétariat autour d'un chef de police, j'y crois pas. Et je crois que c'est un piège. Pour lui, il doit faire très attention.
Je sais pas si tu as vu, Jean-François, il parle de lui à la troisième personne. C'est assez particulier quand même.
Oui, mais remarque, il a dit que...
Jean Charest faisait ça aussi.
Hein? Ah oui?
Ben oui.
Comme César dans Astérix, à un moment donné, il dit... il est fort. Qui ça? Ben, vous? Ah, lui! il a dit aussi, Faguerre, hier, que à Longueuil, il a augmenté le nombre de perquisitions d'armes pendant qu'il était là. Donc, c'est sûr que ce qui retient l'attention, c'est ce qu'il ajoute à l'action policière, c'est-à-dire la prévention, etc., mais ça ne l'empêche pas d'avoir fait de la répression lorsqu'il était là, d'avoir arrêté les proxénètes. Et donc, c'est important qu'il rappelle ça. Puis c'est important qu'il dise que c'est pas du copier-coller. C'est sûr que c'est pas du copier-coller, mais c'est la même vision qu'il va appliquer. Et le fait qu'il vienne de Longueuil, ben c'est Longueuil qui est venu le chercher parce que sa carrière, il le fait à Montréal. Il connaît très bien le service de police de Montréal. Pendant 25 ans, il a été là à tous les échelons.
Tout à fait, non. Et en tout cas, c'est quand même assez rassurant. Ça a l'air qu'il est accueilli de façon chaleureuse par les policiers. On jugera l'arbre à ses fruits.
Eh oui.
Alors, monsieur Richard Martineau vous dit bon week-end. Richard Martineau vous remercie.
Bon.
Vendredi.
Ben oui. Salut.
Bye. Merci à vous deux. Salut. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée ou alors écouter son excellent balado auquel je suis abonné depuis déjà quelques années, il commente avec son humour légendaire l'actualité. Il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. C'est comme avoir un excellent prof d'histoire. Allez sur laboîtealisée.com.